Voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ce qu'il a créé mâle et femelle. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse et se comporte en piété et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 2 Shahrivar, 1402 du calendrier iranien, 24 août 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. L'Iran accueilli par les BRICS, un début prometteur. L'Iran devient membre à part entière du groupe BRICS. En Syrie, l'armée cible des terroristes dans des attaques de représailles à Alep, Latakié et Hama, et les groupes de résistance de Gaza au Liban en état d'alerte après les menaces israéliennes. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran est officiellement devenu membre du groupe des économies émergentes, BRICS, dont les dirigeants se trouvent à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour discuter de l'expansion du bloc. Le président sud-africain a annoncé jeudi 24 août que les États membres des BRICS se sont accordés sur l'admission de l'Iran, de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Éthiopie, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite dans le bloc en tant que membre à part entière. Mohammad Jamshidi, chef de cabinet adjoint du président iranien chargé des affaires politiques, a déclaré que l'adhésion de l'Iran au BRICS est un développement historique et un succès stratégique en matière de politique étrangère. Le président iranien Ebrahim Raisi est arrivé jeudi matin à Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud, pour assister au sommet des pays BRICS. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Les unités de l'armée arabe syrienne, en coopération avec les forces aérospatiales russes, ont mené plusieurs frappes aériennes et d'artillerie de précision contre les fiefs des terroristes situés dans les environs d'Alep, Latakié et Hama. En riposte aux attaques répétées lancées par des groupes terroristes contre des villages et des villes situées dans les environs d'Alep, Latakié et Hama, des unités de l'armée syrienne, en coopération avec les forces aérospatiales russes, ont mené des frappes aériennes et d'artillerie contre leurs repères, leurs rampes de lancement de missiles et leurs drones. Des dizaines de terroristes ont été tués ou blessés au cours de ces attaques, a déclaré le ministère syrien de la Défense dans un communiqué. Le ministère a ajouté que les unités de l'armée ont également réussi à abattre 5 drones terroristes qui tentaient d'attaquer des civils dans les régions précitées. L'ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies a déclaré à la réunion du Conseil de sécurité sur les évolutions politiques en Syrie que le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe et la reprise des relations avec les pays arabes à laquelle nous avons assisté lors de la récente réunion au Caire le 15 août marque des étapes importantes vers le renforcement de la sécurité et de la stabilité de la Syrie. Lors de la réunion du Conseil de sécurité, l'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Saïd Iravani, a précisé que le terrorisme continue de constituer une menace pour la Syrie et la région, et son épicentre se trouve dans des zones échappant au contrôle du gouvernement syrien. La libre circulation des groupes terroristes, y compris Daesh, sur le territoire syrien, où les forces étrangères sont illégalement présentes, constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité de la région et du monde. Les groupes de résistance palestinienne dans la bande de Gaza, assiégés par le régime israélien, sont en état d'alerte et ont pris des mesures de sécurité sans précédent après les menaces israéliennes contre leurs dirigeants. Suite aux menaces d'assassinat venant du régime sioniste, les groupes de résistance palestiniens dans la bande de Gaza assiégée et à l'étranger, en particulier au Liban, sont en état d'alerte et ont pris des mesures de sécurité sans précédent, a rapporté mercredi le site d'information Al-Arabi Al-Jadid. Citant des sources anonymes, des groupes de résistance, le site basé au Royaume-Uni a rapporté que des personnalités palestiniennes du Liban voisin avaient également adopté des mesures de sécurité renforcées après les récentes opérations de résistance en Cisjordanie occupée. Alors que Tel Aviv a multiplié ses menaces contre les dirigeants de la résistance ces derniers jours, divers types de drones espions israéliens patrouillent au-dessus de différentes zones de la bande de Gaza. Fermement opposée à toute intervention militaire au Niger, l'Algérie a envoyé mercredi son ministre des Affaires étrangères en tournée au Nigeria, au Bénin et au Ghana pour tenter de trouver une issue pacifique à la crise. Pour tenter de sortir de la crise au Niger, l'Algérie essaie la voie diplomatique. Le président algérien a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour une tournée dans trois États de la CEDEAO, le Nigeria, le Bénin et le Ghana. Le ministre Ahmed Attaf entame aujourd'hui, mercredi, des visites de travail au Nigeria, au Bénin et au Ghana, a annoncé le ministère algérien sur son compte X ex-Twitter. Il va mener des consultations sur la crise au Niger et sur les moyens d'y faire face avec ses homologues de ces pays qui appartiennent à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a précisé le ministère. Et enfin, lors d'une conversation téléphonique avec le ministre azerbaïdjanais de la Défense, Zakir Hasanov, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Borelli, a souligné que l'unité entre les pays voisins est essentielle pour que la paix s'installe dans la région. La sécurité et la paix le long des frontières communes ne sont possibles que grâce aux relations et à l'unité parmi les États voisins. La présence d'étrangers dans la région provoquera des tensions et des divisions, a-t-il déclaré. Le général Borrelli a également souligné le développement des relations bilatérales en matière de défense et militaire entre Téhéran et Bakou, se référant aux nombreux accords conclus entre les forces armées iraniennes et azerbaïdjanaises au cours des dernières années. Le général Borrelli a évoqué les progrès réalisés dans les coopérations en matière de communication et d'interaction entre les deux parties. Après l'adhésion de la République islamique d'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, son entrée dans les BRICS en tant que l'un des pôles de la future structure multipolaire du monde peut être considérée comme une autre pièce du puzzle du rôle de Téhéran dans les organisations internationales influentes. Le sommet des pays émergents des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, s'est ouvert samedi à Johannesburg avec au centre des discussions l'élargissement du bloc qui veut étendre son influence politique et économique au niveau mondial. Le président iranien Ebrahim Raisi est arrivé jeudi 25 août à Pretoria, capitale sud-africaine, pour assister au 15e sommet des BRICS, un regroupement des économies mondiales. La visite du président iranien Ebrahim Raisi intervient à l'invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. L'adhésion de la République islamique d'Iran au bloc fait partie de l'un des acquis le plus important de la diplomatie iranienne. Les membres des BRICS ont soutenu l'adhésion de Téhéran au bloc après l'entrée en fonction du gouvernement iranien du président Raisi et l'ont invité à plusieurs reprises à assister aux réunions du groupe. En fait, les BRICS peuvent être considérés comme un club économique avec des tendances politiques, voire culturelles et civilisationnelles, des pays qui font partie des principaux pôles de la future structure multipolaire du monde. Les pays membres des BRICS représentent 42% de la population, 30% des territoires, 26% du PIB et 20% du commerce mondial. La République islamique d'Iran, qui jouit d'une situation géopolitique extraordinaire et de capacités uniques sur le plan de l'énergie, du commerce et des activités économiques, est au centre de l'attention des membres des BRICS. La République islamique d'Iran, en tant que voie de transit privilégiée reliant l'Est à l'Ouest, est hautement considérée par la Chine comme l'un des plus grands exportateurs de marchandises vers toutes les régions du monde, y compris l'Asie de l'Ouest et l'Europe. La Chine crée en effet l'une des routes d'exportation les plus sûres, les moins chères et les plus courtes via l'Iran et fournit également les matières premières dont elle a besoin depuis ce pays et d'autres pays de l'Asie de l'Ouest. En contrepartie, l'adhésion aux BRICS offre d'importantes opportunités économiques et politiques à la République islamique d'Iran qui est soumise aux sanctions les plus sévères en raison de non-engagement de l'Occident qui n'a pas tenu sa promesse dans la mise en application de l'accord nucléaire, surnommé également le plan global d'action conjoint, et plusieurs tours de négociations sont restés stériles en raison des ambitions des États-Unis et de leurs alliés européens. Dans le contexte de l'importance de l'Iran en tant que porte d'entrée vers la région eurasienne, l'Inde a tenu en 2018 une réunion au niveau ministériel avec Téhéran et Moscou pour mettre en œuvre le corridor de transport international nord-sud, lit-on sur le site web du journal indien The Economic Times. En effet, le corridor Russie-Iran-Inde est la première étape pour que l'Iran rejoigne les BRICS. Les BRICS peuvent donc aider l'Iran à déjouer les sanctions de l'Occident. En outre, la Russie, en tant que membre de l'OCS et des BRICS, qui fait l'objet des sanctions les plus drastiques des États-Unis et de l'Europe, peut bénéficier de l'expérience de Téhéran pour contourner les sanctions de l'Occident. En général, dans cette conjoncture où l'Occident tente de satisfaire ses exigences exorbitantes en recourant à des sanctions contre des pays indépendants, la coopération de grands pays émergents, riches et peuplés, peut bouleverser ses calculs. Dans cette perspective, divers acteurs dans le monde, notamment les membres des BRICS, sont arrivés à cette conclusion qu'en définissant leurs propres mécanismes monétaires et économiques, ils se protégeraient des atteintes du système américano-européen.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Nous débattrons aujourd'hui dans cette émission du sommet des BRICS en Afrique du Sud, 15e du genre. BRICS est un bloc géopolitique intercontinental qui englobe 5 pays pour l'instant, savoir le Brésil, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et l'Inde, bien sûr. Et il représente 42% de la population mondiale, ce qui est énorme. Alors l'objectif de ce sommet, c'est l'expansion de ce bloc à des dizaines de pays, et surtout la République islamique d'Iran, qui a une situation géopolitique extraordinaire et unique, et sera un membre clé pour BRICS. Alors tout ça pour un développement durable, bien sûr, et un multilatéralisme inclusif. Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le monde retient son souffle alors que l'Afrique du Sud accueille le 15e sommet des BRICS. Cette année, l'expansion du bloc semble être au premier plan de l'agenda, avec plus de 40 pays ayant exprimé leur intérêt à y adhérer. La question phare qui se pose, c'est que comment le sommet va-t-il changer le paysage géopolitique mondial? Johannesburg se prépare pour le 15e sommet des BRICS qui a débuté mardi et se poursuivra jusqu'à jeudi avec le thème « Les BRICS et l'Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ». Le multilatéralisme est peut-être le mot le plus significatif pour décrire les intentions des nations rassemblées, la puissance économique combinée des BRICS dépassant déjà celle du G7 et, s'il en tient compte du potentiel humain, géographique, économique et des ressources des pays qui ont exprimé l'intérêt à adhérer, pose un défi sérieux à l'ordre international dirigé par les États-Unis. Le grand potentiel pour créer une architecture juste et démocratique des relations internationales réside dans des structures comme les BRICS, a déclaré la semaine dernière le chef de renseignement russe Sergueï Narychkin à la veille du sommet. Soulignant la similitude du nom du bloc avec le mot anglais « BRICS », Narishkin a indiqué que les BRICS sont un clin d'œil subtil aux États-Unis et à leurs alliés, affirmant que le soi-disant ordre international fondé sur la règle est en voie de disparition. Ce sont en effet les éléments constitutifs de la fondation d'un monde véritablement libre et égalitaire. Dans un avenir proche, de nouvelles BRICS ou de nouveaux poteaux seront ajoutés. La structure de la multipolarité continuera de croître et de se renforcer. Et la protection des droits des nations, à la souveraineté et à l'identité favorisera un véritable développement économique. Aucune bête sur Terre ne réussira à démanteler cette structure. En ce qui concerne l'armement géopolitique qui change la donne, nous y sommes, a déclaré Pep Escobar à Sputnik. Interrogé sur l'importance particulière du sommet des BRICS de cette année. Beaucoup plus que les sommets précédents, bien plus que le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, bien plus que tous les sommets précédents des BRICS, et le fait que cela se déroule en Afrique, qui, comme nous le savons tous désormais, est un nouveau centre de tout, notamment à cause, disons-le de manière concise, de la révolte africaine contre le néocolonialisme français ne fait qu'ajouter à l'importance du rassemblement, a déclaré Pep Escobar, un observateur chevronné des évolutions internationales, qualifiant la volonté d'unifier les BRICS plus en un super bloc mondial de défi de l'époque. Escobar a déclaré qu'il ne s'agissait pas uniquement des BRICS, de l'OCS, de la CEE, du Grand Partenariat Eurasien, de l'Union africaine ou de l'initiative chinoise de la ceinture et de la route. La question centrale est de trouver les mécanismes permettant de faire fonctionner une gouvernance fondée sur le consensus. Ce dont l'ordre actuel dicté par les États-Unis n'a pas besoin. Si tous interagissent de plus en plus étroitement, alors qu'ils seront capables de faire face à la menace, au défi, mais dans une atmosphère de coopération, de respect mutuel et de respect de la souveraineté de chacun, ce qui est l'opposé absolu de l'ordre international fondé sur des règles, a résumé l'observateur.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Maître Arnaud Develay, juriste international et expert des questions internationales, qui est avec nous. Monsieur Develay, bonjour.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Monsieur Corneille.
Un plaisir de vous recevoir dans l'émission Le Débat. Justement, Monsieur Corneille, Jean-Maxime Corneille, expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Paris. Monsieur Corneille, bonjour.
Bonjour, bonjour Téhéran également. Bonjour à Monsieur Develay.
Ma première question va s'adresser à Monsieur Corneille. Alors, le bloc BRICS, donc un bloc géopolitique intercontinental, est plutôt une très bonne initiative vers un monde égalitaire qui représente 42% de la population mondiale. Que pensez-vous ?
Alors oui, c'est l'émergence de ce que j'avais vu arriver en 2008 comme étant en réalité un dualisme des mondialismes, c'est-à-dire que le mondialisme actuellement connu, c'est-à-dire l'héritier du soi-disant nouvel ordre mondial de George Bush père, a donné la naissance d'un autre mondialisme bien plus positif et concurrent. Justement basé sur le refus des abus du nouvel ordre mondial qui était l'héritier donc de l'ordre anglo-américano-israélien issu de l'après-Seconde Guerre mondiale et des accords de Bretton Woods. C'est-à-dire que cet ordre léonin a donné tellement d'illégitimité, de guerre scélérate et de viol économique, de vandalisme diplomatique, qu'en réaction, un nouvel ordre mondial a émergé d'une façon qui permettait la mise en échec du premier mondialisme, basé globalement sur le viol de à peu près les économies du monde entier par le système de Bretton Woods, tel qu'il a été en réalité violé dès les années 60 et 71. C'est-à-dire que depuis lors, nous avons un dollar qui, en réalité, ne devrait même pas avoir la valeur du papier, qui a été la base d'une vision léonine du mondialisme dans sa dimension prédatrice et financière, qui a été imposée à tous les pays globalement du monde, et notamment les pays émergents, c'est-à-dire un bridage des économies du monde. Et face à cela, en réalité, donc les BRICS et globalement leurs nouvelles infrastructures en gestation, en cours d'accouchement, correspondent à une tentative de mise en échec qui a la possibilité de réussir aujourd'hui, de mise en échec de cet ancien mondialisme basé sur une prédation financière à l'échelle du monde. Donc ça, c'est, je pense, le point global qu'il nous faut comprendre dans ce qui est en train de se passer en Afrique du Sud.
Absolument. Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle d'Arne Develay. Une très bonne initiative, la mise en échec donc de ce mondialisme. Que pensez-vous, M. Develay, je vous prie?
Alors, tout d'abord, il faut se rappeler que le BRICS existe depuis 2006, qu'à l'époque, c'était effectivement des rencontres informelles entre les cinq puissances qui forment encore aujourd'hui officiellement donc l'organisation, mais qui n'avaient pas forcément la même dynamique qui, suite aux guerres incessantes du bloc anglo-saxon, ont fini par devenir une alternative qui s'impose. Parce que, comme l'a rappelé M. Corneille, effectivement, le système financier qui sous-tend ces guerres, cet aventurisme militaire, est lui-même fondé sur la déprédation et la spéculation et l'exploitation pure et simple. Or, on s'aperçoit que le prix à payer pour un ordre basé sur ces soi-disant principes est celui de la violation de la souveraineté des États et d'exploitation pure et simple des peuples et de leurs ressources. Les BRICS se sont lentement mais sûrement établis comme une alternative non pas juste philosophique, mais aussi existentielle pour les peuples concernés. On peut dire aussi que depuis les événements en Ukraine, avec la souveraineté, l'existence même, la viabilité d'un des cinq membres des BRICS, cette dynamique, cette dialectique s'est accélérée d'autant plus que suite à la confiscation des avoirs russes, suite à ce que cela a pu engendrer comme message, à savoir que en fait, les dépôts des uns et des autres ne sont pas en sécurité et qu'il n'y a pas de respect des règles malgré ce qui nous est mis en avant par le biais du département d'État américain avec cet ordre fondé sur les règles, soi-disant, on s'aperçoit que cet ordre-là, en fait, est complètement hors sol, qu'il est complètement arbitraire et que, ce faisant, plus personne n'est fondamentalement en sécurité pour peu que leur positionnement sur tel ou tel sujet soit perçu comme étant incompatible, voire contradictoire avec ce qui se décide à Washington. Donc cela a pu, à l'aune du développement militaire et du fait que l'OTAN s'est révélé être un tigre de papier, les pays qui étaient un peu, si je puis dire, sur un positionnement neutre entre ces deux pôles, entre le G7 et les BRICS, ont commencé à comprendre que leurs intérêts vitaux à moyen long terme, c'était justement de rejoindre les BRICS. Et vous l'avez souligné, cette organisation, c'est environ 42% de la population mondiale, c'est un tiers des ressources, de la richesse économique, donc en parité avec le G7. Et maintenant, à l'aune de ce sommet, donc le 15e du genre, on rentre maintenant plus dans le dur, à savoir comment mettre en place des mécanismes de coordination et de synchronisation qui permettraient, pas seulement aux BRICS en tant que, si je puis dire, socle principal, mais aussi à tous ces autres grands ensembles régionaux, de s'articuler les uns les autres afin de mettre en place de manière concrète l'établissement de projets qui permettent justement le développement économique de tous les peuples qui sont inclus dans les pays concernés. Donc, ça inclut bien sûr les cinq membres principaux, mais aussi, n'oublions pas, jusqu'à présent, on a environ une quarantaine de pays qui ont exprimé de manière plus ou moins appuyée leur désir de rejoindre ce grand ensemble. Pour l'instant, il semblerait qu'il y a quand même des candidats en tête. On peut penser à l'Iran, à l'Arabie Saoudite, pour des raisons diverses et variées de manière respective. Mais fondamentalement, on peut penser que dans les prochaines années, ce sera pas moins de 30 pays qui vont joindre leurs ressources à cette alternative, ce pôle alternatif au G7, qui lui-même maintenant est en chute libre économiquement. On le voit encore, les chiffres viennent de sortir. Les économies de l'Union européenne sont en désarroi total. Donc, nous assistons vraiment à un séisme géopolitique, un changement du centre de gravité de l'Occident vers la masse eurasiatique. Et ce sommet-là permet de commencer à mettre les bases techniques qui permettront encore une fois d'articuler cette vision.
Absolument. Arnaud de Velay a très bien fait d'évoquer l'expansion donc, du bloc BRICS à des dizaines de pays, en évoquant même l'Iran, qui a une situation géopolitique extraordinaire et très unique et sera certainement un membre clé pour l'avenir de BRICS. Donc 42% de la population mondiale, M. Corneille, et dans l'avenir, ça sera peut-être 80% de la population mondiale. Et que pensez-vous de cette expansion, M. Corneille ?
C'est de toute façon une bonne chose, et c'est à comprendre, comme je le disais avant, comme un contre-mondialisme, en fait. Un contre-mondialisme contre le mondialisme et l'Occident, mais qui en réalité a détourné l'Occident vers la prédation financière, c'est-à-dire que c'est un trafic, par bien des égards, sur le patriotisme des Occidentaux, spécialement des Anglo-Américains, mais également par extension des Français ou autres, de tous les gens qui pensaient lutter contre le communisme dans les années 60-70, en oubliant que le communisme lui-même avait été créé par le même internationalisme financier. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en sortant progressivement de l'idéologie communiste, tout devient possible. C'est-à-dire qu'avant, à partir de l'initiative de Bandung des non-alignés, puis de plusieurs occasions, j'en avais déjà parlé sur votre antenne, notamment le sommet de Colombo, le sommet des non-alignés en 1976, à l'époque, il n'y avait pas la masse critique de la Russie encore soviétique et de la Chine qui était globalement empêtrée dans le maoïsme qui a été financé et créé depuis l'extérieur pour brider la Chine également. Il est particulièrement intéressant que personne n'ait remarqué qu'en 2015 il y a eu un film français, franco-chinois, par Jean-Jacques Hano, anciennement persona non grata en Chine, lorsqu'il avait dénoncé l'invasion du Tibet par la Chine communiste dans un film qui s'appelait « 7 ans au Tibet ». Donc, il n'était plus en odeur de sainteté en Chine, et pourtant, en 2015, c'est au contraire la Chine qui l'a soutenu pour faire un nouveau film qui s'appelle « Le dernier loup », dans lequel ce premier film, c'est le premier film qui critique subtilement le communisme en Chine, l'inoculation du communisme en Chine comme ayant en réalité été une cause de bridage ou quelque chose de négatif pour la Chine. C'est très symbolique que ce soit un film français. Il y avait eu la même année un autre film qui s'était appelé Dragon Blade, au sujet justement d'une main tendue de la Chine à l'Occident, symboliquement transposée dans l'Antiquité. Nous voyons donc qu'entre 2015 et 2023, les tentatives de main tendue vers l'Occident, aujourd'hui détourné par sa finance internationaliste, les tentatives de main tendue par la Chine et par les BRICS ayant été rejetées. C'est donc résolument un nouvel ordre mondial qui va se mettre en place, comme nous l'avons vu. Et l'expansion, en ce sens, est positive dans la mesure où elle est en plus une fusion de plusieurs dynamiques anciennes. La dynamique des non-alignés, renforcée par la Russie et par la Chine, réussissant à sortir du communisme aujourd'hui. C'est-à-dire que la masse critique que n'avaient pas auparavant les pays non-alignés à l'époque de 1976, au moment où la France également, avec l'Afrique du Sud, avait tenté la mise en place d'un système concurrent au dollar, c'est la raison pour laquelle la France, comme l'Afrique du Sud, avait été ciblée à l'époque, eh bien aujourd'hui, il y a une masse critique convergente que d'ailleurs, malheureusement, la France ne comprend plus aujourd'hui, car la France a été depuis 2007 un féodé au mondialisme. Mais auparavant, la France était parfaitement légitime à faire partie de ces non-alignés. C'était la France qui pouvait dire non aux anglo-américano-israéliens. C'est bien pour ça que la France a été globalement retournée, l'avais-je déjà dit sur votre antenne, entre 2003 et 2023. C'est assez symbolique qu'en 20 ans de temps, la France ait été aujourd'hui retourner dans un sens tout à fait belliciste et tout à fait mondialiste. Les Français aujourd'hui, c'est là où je parle d'un trafic sur le patriotisme occidental. Les Français aujourd'hui ne savent pas qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire alors qu'ils ont été historiquement du bon côté. C'est tout récent dans l'histoire de France. Mais en ce sens, l'augmentation de la taille, l'agrégation aux BRICS de tous les États n'ayant pas été les grands artisans du mondialisme financier, c'est-à-dire les anglo-américano-israéliens, est de toute façon une bonne chose. Une bonne chose, ce qui va aussi nécessiter une nouvelle monnaie, l'émergence d'une nouvelle monnaie concurrente au dollar, c'est en cours justement à l'occasion de ce sommet, et ça va également nécessiter des prises de conscience, c'est-à-dire une inflexion du mondialisme actuel qui a été ourdi globalement par la City et par Wall Street pour faire historiquement de la Chine ses esclaves soumis. Or, la Chine a mis l'intelligence étatique pour sortir de cette logique d'esclave. Mais à terme, il faudra nécessairement relocaliser certains pans entiers de l'économie et la Chine ne pourra pas demeurer éternellement l'atelier du monde. C'est-à-dire que cette situation nouvelle des BRICS, outre l'agrégat en matière de droit international de nouveaux pays, aura beaucoup de conséquences économiques et financières qui correspondront en fait à la digestion ou à la marche en arrière, remettant en cause de nombreuses dynamiques assez néfastes de concentration financière du monde, qui était l'apanage de l'ancien mondialisme anglo-américano-israélien. Donc encore une fois, c'est une bonne chose, cette agrégation de nouveaux États aux BRICS, c'est une bonne chose, mais le véritable sujet, comme toujours, sera la monnaie, le sujet des sujets, et l'économie, d'une façon qui devra être réagencée de façon viable à l'échelle du monde, faisant fi de ces logiques de création de chômage d'un côté et d'esclaves de l'autre, qui a été l'apanage du mondialisme anglo-américano-israélien. Donc voilà, il y a plusieurs sujets imbriqués, mais c'est de toute façon une dynamique positive si l'on fait la comparaison avec la situation du sommet de Colombo de 1976 et de la façon dont, à l'époque, les pays émergents ont été un à un réduits au silence lorsqu'une vision du mondialisme concurrent aux anglo-américano-israéliens a tenté d'émerger à l'époque, mais n'en avait pas la masse critique alors qu'elle l'a aujourd'hui. Voilà pour la grande boucle que je ferai sur le sujet.
Oui, Arnaud Devel, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, certainement, il existe une dynamique aujourd'hui qui n'existait pas il y a 40 ans. Et bien sûr, c'est la guerre froide qui a la fin de la guerre froide. Et je dirais aussi l'incapacité pour le monde unipolaire de comprendre qu'il ne pouvait pas vivre ou imposer en tout cas sa vision du monde de manière unilatérale, sans que cela produise une réaction. Et on a vu au travers des 20 dernières années, effectivement, que cet ordre prédateur n'hésite pas à s'en prendre à ce qui est considéré comme sa chasse gardée, son pré carré. Monsieur Corneille a mentionné la France. La France a payé un prix très élevé pour justement s'être opposé à cette violation flagrante du droit international en 2003. Que dans cette optique, à l'époque, on avait évoqué l'existence d'un axe entre Paris, Berlin et Moscou. Visiblement, les éléments, les fondamentaux n'étaient pas réunis encore à l'époque et la culture politique qui prévalait encore à l'époque au niveau international ont fait que cette vision qui avait été entreaperçue juste en tout cas sur ce dossier particulier n'a pas été suivi d'applications concrètes sur le long terme, mais on avait déjà, si je puis dire, quand même une indication que si la pression et les forces en présence étaient de nature à être amenées à, pour des raisons existentielles, prendre les mesures qui s'imposent et s'opposer frontalement à cet impérialisme du XXIe siècle, hein, ce que les néoconservateurs appellent le nouveau siècle américain, on pourrait assister à effectivement un changement de centre de gravité. Et c'est ce qu'on a vu suite ces campagnes incessantes de changement de régime en Asie occidentale, mais aussi avec ce sous-scoboutisme néoconservateur qui visait cette fois-ci à s'en prendre un morceau beaucoup plus grand et beaucoup plus difficile à avaler, à savoir la Fédération de Russie, où bien sûr on peut imaginer que dans leur arrogance, ils ont fait preuve de hubris, comme diraient les Grecs, ils ont sous-estimé la capacité de la Fédération de Russie à s'adapter à ce régime de sanctions qui, rappelons-le, est quand même le régime du genre le plus compréhensif de toute l'histoire dans le contexte des sanctions en lui-même, et qu'en cela, si je puis dire, ça leur est revenu en pleine
figure,
avec maintenant une situation qui voit une anomie généralisée à travers l'Occident, où les contradictions internes sont devenues intolérables, et que maintenant, c'est leur propre population qui sont sacrifiés sur l'autel de leurs ambitions.
Absolument. Arnaud Develet, expert des questions internationales, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci également à Jean-Maxime Corneille, expert des questions internationales, qui nous a accompagnés depuis Paris. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans notre dernier programme, nous avons terminé la lecture et l'exégèse des versets de la sourate 45 du noble Coran, la sainte sourate Al-Jassiya, l'agenouillée. À partir de ce programme, nous commençons la lecture et l'exégèse des versets du chapitre 46 du noble Coran, la sainte sourate Al-Ahraf. La sourate 46 compte 35 versets. La sainte sourate Al-Ahraf fut révélée au noble messager de Dieu, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, à la Mecque, avant l'Hégire. Bien que le titre ne fasse pas directement partie du texte coranique, la tradition musulmane a donné comme nom à la sourate 46, Al-Ahraf, en référence au verset 21 qui dit « Et rappelle-toi le frère d'Ad, Houd, quand il avertit son peuple à Al-Ahraf, alors qu'avant et après lui, des avertisseurs sont passés en disant « N'adorez que Dieu ». Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 1 à 5 du chapitre 46 du noble Coran, la sainte sourate Al-Ahraf. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 1 à 3 de la sainte sourate Al-Ahraf, puis nous vous en donnerons la traduction.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab min Allahil Azizil Hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ha Mim. La révélation du livre émane de Dieu, le puissant, le sage. Nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, qu'en toute vérité, et pour un terme fixé. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. À l'instar de 28 autres sourates du noble Coran, la sourate Al-Ahraf commence par des lettres de l'alphabet arabe. Selon les exégètes du Livre Saint, ces lettres de l'alphabet, à la tête des sourates coraniques, sont des codes secrets, et dans la plupart des cas, ces lettres sont suivies par le nom du Coran ou une allusion directe au livre céleste et à sa révélation au noble messager de Dieu, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Les commentateurs du Livre Saint estiment souvent que ces lettres de l'alphabet sont des codes secrets qui font allusion au fait que le Saint Coran est le miracle le plus somptueux et le plus parfait que le vénéré prophète de l'islam apporta aux humains grâce à la volonté du Seigneur. D'autant plus que la répétition des lettres de l'alphabet arabe à la tête de plusieurs sourates coraniques est également un défi lancé à l'adresse de ceux qui nient le caractère miraculeux du Coran pour qu'ils sachent qu'ils ne seront jamais capables de faire un livre semblable au Coran, qui est la parole du Seigneur révélée à son plus noble messager. Bien que le Coran soit révélé au prophète en langue arabe, le message divin n'appartient pas uniquement à une nation spécifique, et il s'adresse à l'humanité tout entière. Le Coran original est conservé au ciel et il contient toute la vérité au-delà de la compréhension de l'homme. La révélation du Livre Saint émane de Dieu. En réalité, le Coran est la parole divine révélée au prophète de l'islam, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Le Coran n'est pas un livre de loi religieuse, mais un livre révélant la gestion divine de l'univers tout entier. Il n'y a dans le Livre Saint rien qui soit contraire à la vérité. Ces versets nous apprennent que dans la création de l'univers par Dieu le Très-Haut, il n'y a aucune dérive et aucun élément qui ne soit soumis à la raison. Ceux qui ont mécru se détournent de la vérité, alors que Dieu le Très-Haut a envoyé ses arguments à ses créatures. Écoutons ensuite les versets 4 et 5 de la sourate 46 du noble Coran.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
Dis, que pensez-vous de ceux qui vous invoquez en dehors de Dieu? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Ou ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran, ou même un vestige d'une science si vous êtes véridique. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors de Dieu, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection? Et leurs divinités sont indifférentes à leur invocation. Dieu le Très-Haut s'adresse à son noble messager, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, pour qu'il demande aux païens de la Mecque si les idoles qu'il prenait pour les divinités étaient capables de faire quoi que ce soit pour gérer l'univers, les cieux et la terre. Les païens avouaient dans leur fort intérieur que l'univers avait été créé par Dieu le Très-Haut. Ces versets nous apprennent que le choix de tout chemin en dehors de la voie de la lumière, qui mène au salut éternel, conduirait les gens à l'égarement et à la perdition. Face aux questions sur les origines de leur désobéissance au Seigneur, les mécréants n'ont aucun argument logique pour se justifier. Les fausses divinités auxquelles se soumettent les mécréants et les associationnistes n'ont aucun pouvoir sur le sort des humains. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 46 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Ahqaf. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Thank you.